Les grands titres de ce jeudi 29 décembre. Le secrétaire d'État américain John Kerry croit que la solution de paix au conflit israélo-palestinien est en péril. Le suspect numéro un de l'attentat de Berlin était en contact direct avec des islamistes basés en France. Et une vague de chaleur s'abat sur certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud. Le secrétaire d'État américain John Kerry a averti que le futur de la solution de paix à deux États au conflit israélo-palestinien est en péril. Il a défendu la décision de son pays de s'abstenir de voter contre la fin de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Le président élu Donald Trump, qui voulait que les États-Unis imposent son veto, s'est dit déçu de la décision. John Kerry a demandé à tous ceux impliqués de continuer à travailler pour la paix.
The two-state solution is the only way to achieve a just and lasting peace between Israelis and Palestinians. It is the only way to ensure Israel's future as a Jewish and democratic state, living in peace and security with its neighbors.
Le secrétaire d'État américain John Kerry. Israël a mal réagi au discours de John Kerry, le premier ministre Benjamin Netanyahu disant qu'il était biaisé. Il a ajouté que John Kerry se concentre trop sur la colonisation et ignore la racine du conflit, qu'il dit être l'opposition palestinienne à un État juif.
In a speech ostensibly about peace between Israelis and Palestinians, Secretary Kerry paid lip service to the unremitting campaign of terrorism that has been waged by the Palestinians against the Jewish state for nearly a century. What he did was to spend most of his speech blaming Israel for the lack of peace by passionately condemning a policy of enabling Jews to live in their historic homeland and in their eternal capital, Jerusalem.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président palestinien Mahmoud Abbas, lui, se dit toujours prêt à travailler avec Israël pour la paix. Ce discours de John Kerry, c'est un discours historique selon Jean-Paul Chagnolo, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Proche-Orient. Il nous explique pourquoi.
Une des forces de ce discours, c'est l'idée que si Israël veut continuer à s'insérer dans la région, il faut qu'il choisisse un ou deux États. Et si c'est un État, ça ne pourra pas être un État juif et démocratique. Sous-entendu, ça sera un État fondé sur la discrimination, contraire aux valeurs de la démocratie, contraire aux valeurs de la culture juive. Enfin, il a été extrêmement clair là-dessus. D'où cette obsession que je trouve importante de dire il faut sauver la solution à deux États. C'est dans l'intérêt de tous. Et je crois qu'il a d'ailleurs commencé comme ça. Il a dit cette solution à deux États est dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire des Israéliens, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour les Palestiniens, bien entendu, qui ont droit à un État, mais aussi pour les intérêts des États-Unis. Il a dit que, en tant que secrétaire d'État américain, son rôle, c'était de défendre les intérêts américains. Donc je pense que c'est un discours important, et à mon avis, qui fera date, parce que c'est une référence, surtout quand il vient après la résolution du 23 décembre, qui est plus globale, simplement, que la question de la condamnation des colonies, qui est aussi pour préserver la solution à deux États.
Jean-Paul Chagnolo au micro de RFI. En Australie maintenant, la police fédérale a stoppé un réseau mondial de criminels qui tentaient d'amener une quantité de cocaïne d'une valeur de plus de 300 millions de dollars au pays. La police fédérale, aidée de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, a dit que 15 hommes ont été accusés dans cette affaire après des descentes qui ont eu lieu le jour de Noël. La police a saisi environ 500 kilos de cocaïne en Nouvelle-Galles du Sud et 600 kilos à Tahiti, qui étaient destinés pour l'Australie. Le coût est le résultat d'une opération policière de 30 mois. Le commissaire adjoint Mark Jenkins a dit que ce coup de filet allait sérieusement affecter le marché noir.
It would have been very devastating. This is 1.1 tonnes of cocaine that hasn't reached the streets in New South Wales. I haven't done the maths in relation to the number of street deals that would involve, but the street value of those particular drugs is in excess of $350 million. So it's quite a chunk out of the cocaine economy, I would expect, in New South Wales at this stage. So it would have had a devastating result in New South Wales.
Le commissaire adjoint Mark Jenkins. Une vague de chaleur s'abat sur certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud où les températures sont dans les 40 degrés. À Penrith, dans l'ouest de Sydney, le mercure devrait atteindre les 42 degrés Celsius aujourd'hui. Le centre-ville devait être un petit peu plus frais grâce à une brise marine. La vague de chaleur devrait se déplacer vers le nord ce week-end. Sur les ondes d'ABC, Tim Flannery du Climate Council a rappelé aux gens d'être prudents.
Heat waves, such as the one we're seeing in Sydney now, are the most dangerous, single most dangerous extreme weather event we see. Particularly for elderly people or young people, they really need to protect themselves because they get dehydrated very quickly and then, you know, they're on the way potentially to the hospital.
Tim Flannery du Climate Council. Température extrême également aujourd'hui dans le Victoria où on annonce des orages. Hier, des vents violents allant jusqu'à 100 km/h ont causé des pannes d'électricité dans plus de 5000 résidences et commerces près de Ballarat. Aujourd'hui, c'est la pluie qui s'abattra sur l'État. 100 mm sont attendus. Le Bureau de météorologie a averti qu'il pourrait y avoir des inondations dans le nord et au centre de l'État. Brad Dalglish, des services d'urgence, a dit à ABC que les campeurs doivent particulièrement bien se préparer.
We are concerned about the increase of river levels associated with the rainfall and on top of that flash flooding, but also things like branches and that may come away from these trees and these branches can be quite heavy. We don't want to see any fatalities from these.
Brad Dalglish, des services d'urgence du Victoria. Le gouvernement australien a défendu ses changements au régime de retraite. Une évaluation plus serrée des actifs sera mise en place dès le 1er janvier, ce qui affectera 300 000 personnes. Les partis travaillistes et One Nation ont critiqué ces changements. Les travaillistes accusent la coalition de vouloir rendre la vie difficile aux personnes âgées. Mais le ministre d'État spécial, Scott Ryan, affirme que les changements rendront le système plus juste et durable.
Labor needs to answer two questions. Do they support the changes necessary to make our pension system sustainable for future generations of retiring Australians? And even more importantly, do they support the changes coming into place on Sunday that's increased pension payments to 170,000 of our most vulnerable senior Australians?
Le ministre d'État spécial, Scott Ryan. La police du Victoria veut rassurer le public en leur disant qu'il n'y a aucun signe comme quoi la ville de Melbourne sera la cible d'une attaque terroriste lors des célébrations du Nouvel An. La semaine dernière, plusieurs personnes ont été arrêtées et accusées en lien avec un complot terroriste visant le centre-ville de Melbourne. Le maire Robert Dole rappelle que la sécurité des gens venus célébrer est la priorité.
We're always a bit nervous, as I say every year. You don't often throw a party for 500,000 of your best friends, but when they come over, you better be ready. And we are. And that's because of meticulous planning that starts actually on New Year's Day each year.
Le maire de Melbourne, Robert Doyle. De retour à l'international maintenant, les autorités allemandes détiennent un homme suspecté d'être impliqué dans l'attentat sur un marché de Noël de Berlin qui a fait 12 morts. Les enquêteurs ont trouvé son numéro dans le téléphone du suspect numéro 1, celui qui aurait conduit le camion et qui a été abattu en Italie. On a aussi appris que ce suspect numéro 1 était en contact direct avec des islamistes basés en France. Il aurait tenté de se procurer des armes via des contacts là-bas. La Turquie et la Russie se seraient entendues sur un accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans toute la Syrie. Mais l'annonce faite par l'agence pro-gouvernementale turque Anadolu n'a pas été confirmée ni par Moscou ni par Ankara. À Istanbul, Alexandre Billette.
Un cessez-le-feu est possible à tout moment, mais rien n'est encore joué. Le chef de la diplomatie turque, prudent, qui n'a pas confirmé la mise en place d'un cessez-le-feu à minuit ce soir, même si Ankara et Moscou discutent toujours. La Turquie qui dit vouloir faire taire les armes et mettre en place des négociations sur un éventuel processus de paix. Et c'est peut-être sur ce dernier point, justement, que les choses sont encore bloquées. Et le ministre Çavuşoğlu l'a encore répété aujourd'hui, il n'y aura pas de solution politique en Syrie avec Bachar el-Assad à la tête du pays. Et la question est donc de savoir qui pourrait participer aux négociations de paix qui pourraient avoir lieu en janvier au Kazakhstan. La Turquie qui refuse notamment la présence des milices kurdes, une antenne du PKK selon Ankara, et qui devrait être exclue du processus au même titre que l'État islamique.
Alexandre Billette pour RFI. En France, le président François Hollande a accordé une grâce totale à Jacqueline Sauvage, qui avait été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui la battait. Cette décision met donc immédiatement fin à cette détention. Les précisions de Simon Rosé.
Sa place est auprès des siens, pas en prison, c'est ce qui est écrit dans le communiqué envoyé par l'Élysée. Condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent, elle devait en sortir en juillet 2018, puisque François Hollande lui avait déjà octroyé une grâce, mais partielle à l'époque, ce qui devait permettre à Jacqueline Sauvage de faire une demande de libération conditionnelle. Mais la justice avait refusé par deux fois de la lui accorder, le chef de l'État a donc décidé de la gracier totalement. Jacqueline Sauvage est donc désormais libre, une nouvelle qui réjouit ses très nombreux soutiens en France, au premier rang desquels son avocate, qui se dit terrassée par la joie et l'émotion. En effet, avec cette affaire, Jacqueline Sauvage était devenue un symbole des violences faites aux femmes. Sa condamnation et surtout le refus de lui accorder une libération conditionnelle avaient choqué en France. De très nombreuses personnes, notamment des personnalités médiatiques, avaient pris fait et cause pour elle, notamment la comédienne Eva Darlan, qui avait exhorté François Hollande à gracier totalement Jacqueline Sauvage. Elle aura donc été entendue.
Simon Rosé pour RFI. Et on vient tout juste d'apprendre que l'actrice Debbie Reynolds est décédée. On l'avait connue dans le classique Singing in the Rain. Elle est aussi la mère de Carrie Fisher, qui est elle aussi décédée cette semaine. Jetons un coup d'œil à la météo avant le magazine des sports avec Jean-Noël Ducasse. On vous l'avait promis, il est de retour. À Perth aujourd'hui, c'est un maximum de 35, Adélaïde 29, Melbourne 31, Hobart, 27 degrés, Canberra, 33, Wollongong, 35, Sydney, 37, Newcastle, 34, Brisbane, 30, Cairns, 32 et à Darwin, 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 29 décembre. Le secrétaire d'État américain John Kerry croit que la solution de paix au conflit israélo-palestinien est en péril. Le suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin était en contact direct avec des islamistes basés en France. Une vague de chaleur s'abat sur certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench